Vous écoutez
RMC.
Arthur est avec nous, supporter du PSG. Salut Arthur.
C'est pas genre je travaille, Fred. Arrête.
Salut Nico, salut à tous.
Bienvenue dans l'after du samedi soir.
Bonsoir Arthur.
Que retiens-tu de la victoire parisienne en fin d'après-midi?
Moi, je retiens qu'il y a une équipe qui n'est pas parfaite, qui ne maîtrise pas tout à fait ses matchs, mais qui, depuis quelques matchs, et ça s'est vu notamment sur la dernière journée contre Saint-Etienne, a vraiment envie de gagner ce titre. Ils ont compris qu'il y avait une grosse concurrence pour le titre de Ligue 1 et ils n'ont pas envie de voir le titre leur échapper. Et ça me fait plaisir. Il n'y a pas cette suffisance de se dire « Bon, on va aller gagner la Ligue des Champions, puis on va ramasser la Coupe de France à côté, puis la Ligue 1, tant pis. » Non, on sent qu'ils sont vraiment concentrés jusqu'au bout, même s'il y a des petits sauts de concentration dans le match, avec ce but de Santos encaissé en début de deuxième mi-temps. Mmh. Et je trouve aussi que Mbappé arrive à bien mobiliser l'équipe et que c'est lui le vrai patron offensif du PSG, et que c'est pas Neymar.
Mais il a l'œil du tigre, Mbappé, là, depuis plusieurs semaines déjà. Hein. Dans son comportement, dans son langage corporel, il a changé. On voit vraiment qu'il a compris. On va aller chercher, les gars. Mmh. En leader offensif, hein, derrière Neymar, anonyme, on en parlera dans un instant.
Moi, j'ai quand même l'impression que Kylian Mbappé, même s'il vous dira le contraire sûrement, il a quand même entendu certaines critiques. Je pense qu'il a fait peut-être même une autocritique avec peut-être son entourage et parce que il y a un moment où il était critiquable hein, parce que souvent les gens disent ah oui mais bon vous avez vu Mbappé ce qu'il a fait mais bon personne n'a dit qu'Mbappé n'était pas un des 5 meilleurs joueurs du monde et qu'il n'est pas potentiellement avec Haaland dans les 2-3 qui vont se battre pour les titres et le Ballon d'Or etc dans les prochaines années. Par contre il a eu des replacements défensifs où il n'était pas présent. Il a eu des fois aussi où dans les attitudes, même devant le but, il a fait preuve un peu de nonchalance. Mais là, en ce moment, depuis un mois et demi, ça coïncide aussi avec la meilleure période du Paris Saint-Germain.
Il était tout simplement pas très bien physiquement pendant un bon moment. Et du coup, oui, ça rejaillissait sur son attitude. On sentait une sorte de frustration chez lui d'être pas vraiment à 100%. Et du coup, oui, il se comportait, son comportement pâtissait. Mais là, il est parfait.
Il est parfait, mais moi, je rejoins tout à fait Kevin, c'est que Mbappé, on va se souvenir de sa déclaration d'après match de l'équipe de France. Et depuis,
qu'est-ce qu'il dit
les critiques, c'est pas bien, on est en France et tout ça. Moi, je suis en France et moi, c'est normal que les critiques elles viennent sur moi, mais elles étaient à juste titre ces critiques parce qu'on sentait qu'il y a un potentiel énorme et que forcément, quand il est pas bien physiquement, c'est pour ça que je te rejoins aussi. Jonathan, ça va pas. Et depuis ce match-là, c'est 6 matchs avec le Paris Saint-Germain en comptant la Ligue des Champions, et c'est quand même 7 buts, une passe D. Donc franchement,
En quoi?
Depuis le match de l'équipe de France.
Oui, bien sûr.
C'est 6 matchs avec le Paris Saint-Germain et c'est 7 buts.
Et mais des buts où il va aller chercher, tu vois. Moi, j'ai bien aimé en fait contre Saint-Etienne, tu vois, sa petite altercation avec Amouma où il veut rentrer dans une petite confrontation et finalement il se reconcentre très vite, tu vois, il fait pas une Neymar, il se reconcentre très vite et derrière il va marquer le but et derrière t'as son fameux Bamos là qui commence à être aussi, il prend
le carton, tu sens qu'il est vénère d'avoir pris le carton, il va mettre le 2-1.
Voilà, donc c'est
aujourd'hui c'est pareil.
C'est ça aussi le mental de champion, de répondre aux critiques comme il dit, de fermer des bouches et qui nous la ferme jusqu'à la nuit des temps, qui continue à être bon. Et il y a une chose que je veux noter, c'est qu'avec le ballon il est bon et sans le ballon il fait quand même beaucoup plus d'efforts.
Il a le coffre qui rentre.
Oui, bien sûr.
C'est important de le souligner parce que franchement, au moment, et je ne sais pas si vous vous rappelez cette période, justement avant le rassemblement de l'équipe de France, où il s'agaçait, il voulait rentrer tout seul avec le ballon dans le but, tu voyais qu'il n'avait pas le même coup de rein, tu voyais qu'il n'avait pas le même coffre.
Là, il n'a pas été aussi avec Pochettino dès qu'ils ont repris l'équipe. Parce qu'ils ont sûrement fait un travail foncier très important. Et aussi, on a critiqué pourquoi il joue numéro 9, Ben je pense que Pochettino, il a peut-être trouvé, je dirais pas son poste, parce qu'on aime bien quand il joue sur le côté, mais cette équipe, ce joueur, quand il joue en rupture, écoute ce que je vais dire. Quand il joue en rupture, parce qu'il part quand même souvent de côté pour aller dans l'axe. Alors quand il est numéro 9, c'est vrai, moi je joue comme ça. Enfin, j'ai un mec comme ça, je dis à Verratti, je dis à Neymar, je dis à Paredes comme ils ont fait.
T'as pas vu la passe de Herrera?
Mais
elle est exceptionnelle.
Ou Herrera, des joueurs qui jouent dans le milieu, mais les mecs, arrêtez de vous prendre la tête.
vous regardez, vous mettez dans un espace où c'est sûr que Mbappé va la prendre et mettez-le sur orbite.
Première mi-temps.
Je pense qu'ils l'ont compris.
Bah, en première mi-temps, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs.
Les cinq premières minutes, bah, voilà. Mais, il a pris le ballon, il l'a donné.
Fred, sur la première mi-temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais les deux latéraux messins, Santons et Delaine, ils étaient hyper hauts. Et le PSG, je te dis pas qu'ils laissaient le ballon au FC Metz, mais ils les aspiraient, ouais. Et ils prenaient la profondeur après. Et je sais pas si c'est une préparation en vue du match contre City, parce qu'on sait que City va chercher à avoir la possession et va jouer très haut. Mm-hmm. Mais là, dans ce genre de schéma-là, Mbappé, oui, il se régale.
Bah, il se régale. J'aimerais faire le bilan de son nombre de buts marqués sur les séquences comme tu décris, lancé comme ça, sa pointe de vitesse et dans la finition. À mon avis, on est sur une majorité de buts marqués dans la profondeur pour Mbappé. En 2021, c'est 21 buts, hein, Mbappé, hein, il a accéléré, hein. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, 21 buts, donc 8 en Ligue des Champions.
Là où vraiment il est très très fort, parce que c'est souvent on a dit que face à un bloc bas il avait des difficultés, mais il n'est pas le seul. Tous les attaquants, Haaland, même Cristiano Ronaldo, face à un bloc bas avec le Portugal, il galère à marquer des buts, même si c'est le recordman, mais bon, ça fait longtemps qu'il est là, tu vois ce que je veux dire.
Et que Messi qui arrive.
Bien sûr, voilà, mais Messi il a un autre gabarit, ouais. c'est une autre morphologie, c'est une autre technicité, et puis c'est le meilleur joueur du monde dans ce compartiment là. Mais Kylian Mbappé, en étant lancé comme ça, non seulement il va vite, mais c'est pas qu'il va seulement vite, il a en plus une motricité, une coordination, il est très élégant en plus, et en fait c'est pour ça que souvent il arrive à avoir ce contrôle porte-manteau, ce contrôle du... il a une laxité dans la cheville, il arrive à contrôler le ballon de l'intérieur du pied pour se l'emmener en pleine course et ensuite enchaîner, et bon après il frappe fort et souvent il cadre,
il a une vélocité incroyable. Je me rappelle après c'est RMC Sport avec Laurent Salvaudon, ils avaient fait ça, ils avaient compté le nombre d'appuis sur un but contre le Barça, je crois.
Oh, mais ça aussi c'est de l'intelligence.
Il fait 18 appuis
et de la, c'est
en l'espace d'une seconde et demie, quoi.
Et qu'il a, il a même pas, en fait, il a tellement travaillé, à mon avis, les échelles, les petits appuis, ouais, que forcément, ça vient tout seul.
C'est un don, ça.
Arthur, tu nous disais que toi, tu préfères à gauche, c'est ça?
Ouais, je le trouve meilleur à gauche, parce qu'en plus, je trouve que ça libère un peu Di Maria. Alors, Di Maria aujourd'hui était pas génial, mais je trouve que ça libère un peu Di Maria sur le côté droit.
Il rentre, match de Champions League, Di Maria, faut pas être trop sévère avec lui non plus.
Ouais, mais ça fait quelques temps que Di Maria c'est plus vraiment ça.
C'est un gros match pour ce Bayern au retour.
Ouais, au retour.
Mais pourquoi à gauche du coup, Arthur ? Explique-nous.
Bah moi je trouve que ça permet beaucoup plus de libérer donc les espaces aussi bien à Di Maria à droite qu'à Neymar dans l'axe, et puis je trouve qu'il arrive beaucoup mieux à rentrer, il est beaucoup plus lancé. C'est aussi un peu un fait du foot moderne de voir plutôt des ailiers sur le côté de leur mauvais pied puisqu'ils ont plus tendance à rentrer. Moi je trouve que Mbappé excelle vraiment là-dedans.
Bah, de toute façon, c'est clair. On a souvent dit que Mbappé, il était très à l'aise. Mais c'est pas un ailier, hein. C'est un jeu, comme je disais il y a quelques mois.
Couloir.
Voilà, un attaquant d'aile, comme disait fort justement Paulo Breitner. C'est comme ça qu'on dit en Allemagne. Et c'est vrai que c'est pas un joueur qui va rester. De toute façon, même quand il joue numéro 9, il joue pas vraiment numéro 9.
Ah non, il bouge, il demande,
il a la liberté de demander son
coup de l'attaque. C'est que ça marche forcément contre des petites équipes et des équipes de Ligue 1, parce que le Paris Saint-Germain a une somme de talent individuel qui est forcément au-dessus. Après, en Champions League, il y a eu quelques bons matchs, mais il y a surtout eu des matchs où il a galéré tout seul en pointe. Alors, je ne sais pas si c'est une question de maturité et si l'avenir et le sens de son histoire, c'est un jour d'évoluer numéro 9.
Collectif,
mais moi, ce que je préfère, c'est quand même dans les matchs importants de Ligue des Champions, qu'il puisse s'appuyer et prendre relais sur un vrai numéro 9 qui va un petit peu user la charnière.
Mais après, c'est ce qu'on a dit. Je vous ai rappelé quand on a fait cet hiver là, le débat sur les numéros 9. Ouais. Mais Mbappé, il peut avoir le numéro 9 dans le dos. Enfin, il l'a pas d'ailleurs, il a le numéro 7, mais bon, bref, il peut avoir le truc profil numéro 9. Mais ce sera jamais un avant-centre. Parce qu'un avant-centre, c'est un joueur qui est capable de garder les ballons.
Oui,
c'est un profil Lewandowski, c'est un profil Giroud.
C'est pour ça que Mbappé
ne peut pas faire ça. Il peut pas arriver avec un mec qui va lui rentrer dans le.
Mais c'est sûr, on l'a déjà fait ce débat plusieurs fois, effectivement.
J'appelle ça un attaquant de fuite.
Les gars, petite pause, et Fred, tu reprends la parole. C'est reparti au rugby. Entre Toulouse et le Racing, Wilfried Templier. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, messieurs. 29 pour le Stade toulousain à la pause face au Racing dans ce duel de haut de tableau du top 14 pour la course aux demi-finales. Les deux premiers du classement qui sont pour l'instant Toulouse et La Rochelle iraient en direct en demi-finale. Donc le match est très important, le résultat est très important, mais ça passe presque au second plan ce soir parce qu'il y a une très grave blessure de l'international, l'ex-international Johan Hugé, et il y a une très 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 forte suspicion de rupture du tendon d'Achille. pour Johan Huger qui doit arrêter sa carrière à la fin de la saison. C'est terrible pour lui, il finit comme ça, il venait de marquer son 6e essai cette saison. Johan Huger, 62 sélections, 14 essais en équipe de France, qui a pas été épargné hein, dans sa carrière, qui avait loupé la Coupe du Monde 2011 au dernier moment pour trois no-shows, surtout qui s'était blessé en 2015. Coupe du Monde 2015, premier match, rupture des croisés face à l'Italie, et là ce soir finir comme ça sans public pour son dernier match, c'est terrible. Maxime Médard, son vieux copain au bord du terrain, en pleurait à côté de lui, et on est tous très très tristes ce soir. Et voilà, on est un petit peu sonné ce soir, alors qu'il y a un essai qui est accordé au Stade Toulousain, apparemment à Fouissac. J'attendais de regarder parce qu'il était à 1 mètre de la ligne, et le trois quarts centre, Pierre Fouissac vient inscrire le 3e essai de Toulousain après un essai du G, justement après un essai de pénalité. 3e essai de Toulousain, qui pour l'instant, les Toulousains ont le bonus offensif 42e minute et qui mène avant la transformation 25-9, 42e minute ici à Toulouse.
Et ça a repris également à Madrid entre le Real et le Betis, 0-0 après 52 minutes de jeu. Le Real qui pousse, hein, c'est très important. On en parlera avec Fred Armel tout à l'heure à 23h45. La course au titre, le Real, Atlético de Madrid, et bien sûr le FC Barcelone. Fred, tu peux reprendre, tu parlais de Mbappé.
Je parlais en fait de son. Qu'il a sûrement fait une autre quitterie, et surtout, je pense que Pochettino et lui-même a regardé des vidéos, des montages, à comment utiliser Mbappé dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que c'est pas un numéro 9, c'est vrai que c'est un attaquant de côté, et à chaque fois qu'il a marqué des buts, c'est toujours en mouvement, et quand il part d'un côté pour finir vers l'axe. Mais ce qui est important de dire dans ces cas-là, c'est que son intelligence fait que il est toujours, en fait, en diagonale du mec qui doit lui donner le ballon. Et donc ses épaules en sont toujours orientées vers le but. Mmh. Et à un moment donné, quand il fait ses appels, ça va tout seul en vérité.
Parce qu'il va vite, parce qu'il est véloce, et en plus il est efficace devant le but.
Oui. On voit quand tu es en diagonale comme ça, tu vois le ballon arriver, et tu fais ton contrôle et tu vas vers le but.
Tu coupes la trajectoire, tu prends le ballon.
Exactement.
Il sait contrôler le ballon, il la laisse techniquement, il est efficace. Arthur, tiens, pour te remercier ton passage en l'after ce soir, on t'offre un petit cadeau. On t'offre le masque de l'after foot spécial anniversaire, et oui. Spécial 15 ans et un masque siglé, c'est collector.
Bravo. Merci beaucoup, ça fait plaisir.
C'est pas un masque que tu pourras jeter après une journée d'utilisation, hein.
Tu peux le garder,
évidemment. Tu le laves et c'est bon, quoi.
Il y a le t-shirt aussi.
Allez, t'as le t-shirt aussi, il est là.
Voilà, Arthur,
le maillot. Alors, on t'envoie un pack maillot de l'after. Un vrai maillot de foot, hein. Bien sûr, avec notre partenaire au sport. Et le masque avec notre partenaire Olfadiez. Et
moi, l'after foot sur RMC avec Olfadiez. Olfadiez, des experts en objets et textiles publicitaires depuis 27 ans. Plus d'infos sur olfadiez.fr.
Je sais pas, moi j'ai même pas le masque.
Ouais. Moi, j'ajoute pour Arthur, j'ajoute un CD dédicacé par Liam Gallagher, le premier album d'Oasis, pour cette semaine.
Bon, non, merci.
Et les lunettes, et on t'offre aussi les lunettes de Jonathan Bacardi de ce soir.
Ouais. C'est un mal vu, donc je sais pas. Hein.
Merci Arthur, excellente fin de soirée à toi.
Merci.
À très vite dans la vie. À très vite. J'accueille Patrick au 32-16. Salut Patrick.
Bonsoir monsieur.
Supporter parisien, heureux de t'accueillir dans l'after du samedi soir. Alors Patrick, avant de te donner la parole, parlons quand même, parce qu'on va finir sur Mbappé là-dessus, quand il est sorti blessé. C'est un coup, a dit Mauricio Pochettino. Il dit exactement, Pochettino, une béquille à la cuisse. On espère que ce n'est rien de grave. Il est calme, tranquille, c'est un coup. On espère que c'est juste la douleur de la béquille, que ce n'est pas une lésion. Alors j'ai regardé évidemment la béquille. Je vais vous questionner, vous les anciens footballeurs, Fred et Kevin. La béquille, qui survient toujours là, d'un coup porté sur un appui, en général, sur un muscle en contraction, ça peut provoquer un écrasement musculaire. Oui. C'est en général, mais ça peut être bénin, modéré ou grave, comme beaucoup de blessures. Tout dépend de l'éventuelle formation d'un hématome. C'est ça. Hématome plus ou moins important. Parfois on dit béquille, c'est pas grave, c'est un coup, ça passe dans la nuit ou dans deux jours.
Ça s'appelle une calcification.
Exactement.
Ouais. Alors, et elle peut arriver 3 ou 4 semaines après. Donc il faut faire une échographie une fois par semaine pour bien vérifier qu'il n'y ait plus d'hématome.
Bon, t'as déjà eu une béquille toi ?
Oui, j'ai déjà eu des béquilles.
Et alors ?
J'ai déjà eu des béquilles.
Des béquilles.
Bah, ça dépend de la force de la béquille, bien entendu, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir mal pendant 2 ou 3 jours.
Pas l'entraînement pendant 2 ou 3 jours, d'accord, pour laisser passer la douleur et
maintenant. Au contraire, il faut s'entraîner, il faut faire du vélo pour drainer.
Ah oui,
pour bien. Parce que quoi qu'il arrive, une béquille, c'est toujours un hématome. Il peut être bénin ou il peut être plus grave. Mais voilà, c'est juste au-dessus du genou, ça peut être quand même gênant. Je crois, en tout cas, avoir vu que c'était, tu vois, juste sur le bas du quadriceps. Donc ça fait quand même mal.
Ça fait mal.
Et après, bon, je pense que demain matin, il va faire un peu de vélo, ça va drainer. Et après, ils ont tellement de technologies.
Staff médical, à mon avis, ce qu'ils vont faire, et c'est souvent ce que, en cas de coup, t'as un hématome qui se forme, Moi, je suis pas sportif pro, mais même moi, j'y ai accès. Avec un laser et des petites aiguilles, tu draines l'hématome, ça, en 24 heures, ça part, quoi.
Ouais, ça devrait aller.
Et je pense qu'ils en ont des lasers encore mieux que celui de mon docteur, le OPSG.
A priori, il n'y a pas d'inquiétude, en tout cas, au sein du staff médical du Paris Saint-Germain. Alors, Patrick, toi, tu nous as appelé parce que tu voulais réagir à des propos plutôt dans la journée de Kevin Diaz concernant la demi-finale City-PSG en Ligue des Champions.
Bah, je voulais revenir là-dessus, oui. Et puis, là, depuis tout à l'heure, j'ai écouté aussi vos commentaires par rapport à Mbappé. Si juste, je peux faire une petite parenthèse. En plus, comme on a deux anciens joueurs de foot professionnels. Vous prenez 3 mois de Covid, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas entraînés du tout. Il y a eu une blessure en finale de Coupe de la Ligue. Il y a eu un final 8 qui s'est fait vraiment sur une jambe. Il y a eu le Covid en septembre. Il y a eu une blessure en octobre ou en novembre, je crois.
C'était début novembre, je crois.
Voilà. Il a fait 41 matchs cette année juste depuis le final 8. Et on demande à un joueur comme ça, avec tout ce qui s'est passé dans cette année-là, d'être toujours exemplaire. Des amis, on adore les rader les stats. On ne peut pas toujours revenir les replis défensifs, on ne peut pas toujours tout faire. Regardez la saison qu'il a eue tronquée. Par rapport à tout ce qu'il a eu, vous êtes deux anciens joueurs, par rapport à tout ce qu'il a eu, par rapport sans préparation, parce qu'il y a notre championnat à nous en France, où on fait la première journée le jour de la finale des champions. Ça n'existe nulle part d'autre. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a pris du retard. Derrière, ils ont joué tous les 3-4 jours sans préparation, sans vacances non plus, parce que même moralement, c'est bien de couper, l'ont dit les joueurs. Et là, on n'a rien eu, on demande à un joueur comme ça de toujours être irréprochable. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, parce que cette année, c'est une année différente. Et même, il n'a pas été tout le temps au top, mais réellement, c'était toujours quand même 90% au-dessus de n'importe quel joueur. Quand on prend même des Haaland, des Lewandowski, ils ont tous des coups de mou, mais il n'y a que chez nous qu'on va toujours dire « oui, il ne revient pas » ou « ceci » ou « cela ».
Lewandowski, j'en ai pas vu, en tout cas, depuis un moment, de coup de mou, mais je comprends, on l'a déjà dit, et coach Courbis le dit souvent, effectivement, année compliquée, l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, Ligue des Champions, Ligue 1, Covid.
Voilà, et à mon avis aussi, je pense, là, on le revoit vraiment revenir, vraiment à fond, parce que voilà, c'est le sprint final. Les grands joueurs, ils sont toujours là dans le sprint final. C'est la fin, il reste pas beaucoup de matchs, on les attend dans les grands moments, et ben, c'est là, on le voit. On voit la fin de match contre Saint-Etienne, ça fait plaisir en tant que supporter et même en tant qu'amoureux du football. Quand on voit Mbappé qui a gagné une Coupe du Monde et là qui finit un match contre Saint-Etienne et qui explose de joie par rapport au contexte du match, franchement, ça fait plaisir.
Après, il n'y a pas que ça. Effectivement, il faut être en forme physiquement pour être bon sur le terrain. Mais c'était son évolution de jeu, en tout cas, qui était étonnante. On en parlait fin 2020. Il avait tendance à en faire beaucoup trop dans les petits espaces,
après,
à vouloir
dribbler sur les phases arrêtées. Il n'arrivait pas à faire non plus ce qu'il voulait. Comme il était moins bien physiquement, eh ben, des fois, ça agace.
D'accord avec toi, Patrick.
Bon, moi, sinon, je voulais revenir.
Attends, Kevin voulait réagir peut-être à ce que tu avais dit.
Oui, avec plaisir.
Non, mais parce que, je pense que, au cours de l'été 2020, on a quand même souvent dit que les joueurs, ils étaient pas dans une situation facile et que c'était très compliqué d'enchaîner avec le Covid. Je me rappelle même avoir parlé de Dimitri Payet ici, avec Jonathan et qu'il n'était pas d'accord. Et pourtant, je disais que même pour un joueur comme Payet, c'est pas facile de reprendre, ni pour Mbappé, ni pour personne. Donc là, je te suis complètement. Par contre, là où je te suis pas du tout, c'est que, il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'en France où les grands joueurs sont critiqués. Il faut arrêter de croire que Cristiano Ronaldo n'est pas critiqué en Italie ou en Espagne. Il faut arrêter de croire que n'importe quel grand joueur en Angleterre n'est pas critiqué. Il faut arrêter de croire qu'en Italie, c'est pareil.
Cristiano Ronaldo, il a passé une semaine où c'était que de la critique. Il a juste pas sauté dans un mur. Ils ont pris un but.
Voilà.
Donc, ils ont gagné pourtant.
Voilà. Donc il y a un moment, il faut pas croire que c'est qu'en France que
on
critique les joueurs phares. Au contraire, je pense qu'en France, on est au contraire assez mesuré et que quand il y a de la critique, c'est souvent fondé ou en tout cas c'est les opinions de chacun.
Patrick,
juste qu'on les bichonne un peu plus.
J'ai envie d'ajouter, il faut ajouter une chose sur Mbappé. Tu as raison sur un refait l'historique. Tu as raison quand tu dis qu'il avait des excuses, notamment sur le plan physique. Mais il y a quand même une chose. Il a quand même tendu le bâton pour se faire battre pendant cette période-là. De par son comportement, de par ses déclarations, notamment les déclarations après les matchs de l'équipe de France, il a pas non plus été hyper réglo. Et là encore, on peut lui trouver des excuses. C'est un garçon qui a 22 ans. Il est même pas, tu vois, là, sa maturité en tant qu'homme.
Exactement.
Mais on était obligé de souligner que son attitude n'était pas raccord avec le projet du Paris Saint-Germain, que son attitude était loin de la fraîcheur qu'il pouvait dégager lorsqu'il jouait à l'AS Monaco, et que en plus sur le terrain ça n'allait pas. Ça va pas plus loin que ça, Patrick.
Non, c'est vrai, mais il peut avoir une fatigue mentale à la force du temps aussi avec tout ce qui s'est passé malheureusement.
Et c'est lui qui avait. C'est lui qui avait demandé, Patrick, à ce qu'on le juge pas par son âge, alors que moi je suis pas du tout d'accord avec cet argument.
C'est vrai. Pour moi, sinon aussi, je voulais revenir aussi par rapport à ce que vous avez dit cet après-midi sur Manchester City et aussi ce que Jérôme Rotten avait dit, je crois, il y a 2-3 jours. Comme quoi que City, par rapport au palmarès des joueurs de City, ils n'étaient pas favoris, mais bon, ils savent jouer un peu ce genre de grand match. Pas du tout. Pas du tout. On est à des années-lumière. L'expérience, elle est où aujourd'hui? Elle est du côté du Paris Saint-Germain. Prenez le palmarès des joueurs de City, à part être champion d'Angleterre, ils n'ont jamais rien gagné. À part un quart de finale où il y a 5 ans, une demi-finale qu'ils avaient fait à l'époque, ils n'y vont pas. Ça veut dire que là, réellement, l'expérience est du côté du Paris Saint-Germain. On est finaliste, double année de suite demi-finaliste, on a des joueurs qui sont champions du monde, on a des joueurs qui sont champions d'Europe, c'est-à-dire qu'ils savent, ils connaissent les méthodes pour aller au bout. Est-ce que le syndrome que le Paris Saint-Germain n'a pas eu pendant des années à l'époque de ne pas pouvoir passer les quarts de finale ou les demi, ça ne serait pas relancé sur City cette année. Réellement, mentalement, parce qu'ils n'ont pas cette expérience des grands rendez-vous. À part une demi-finale de Coupe du Monde sur un De Bruyne, sinon, il n'y a aucun joueur qui a de l'expérience dans cette équipe.
Pourquoi vous voulez absolument opposer les deux? Moi, je pense que les deux équipes sont préparées pour ce genre de rendez-vous. L'une, pas plus que l'autre. Alors, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, tu l'as dit, ils ont vaincu le Signe Indien l'année dernière, même si c'était un contexte particulier et que c'était pas des matchs aller-retour. Mais cette année, ils se sont très bien débrouillés, même s'il y a quand même une petite frayeur lors du retour face au FC Barcelone. Mais oui, je suis d'accord, ils ont vaincu le Signe Indien. Mais pourquoi vous leur opposez et dire une telle et telle équipe ou telle équipe a plus d'expérience? Les deux seront prêtes. Les deux seront prêtes. Et tant mieux, on aura des beaux matchs.
Non, coach a dit cet après-midi, il a dit, coach Courbis, il
n'est pas là.
Non, il a dit, non, mais oui, mais tu étais là.
Moi, je n'étais pas là.
Non,
c'est moi.
Allez-y, les gars.
Il a dit cet après-midi, c'est des finales. Et dans les finales, il y a un contexte particulier.
Mais il parlait de la finale de Cup de City demain.
Oui, mais après, même dans ces matchs-là, même après, comme le Paris Saint-Germain, c'est des finales. L'aller-retour, la demi-finale, c'est des finales. C'est deux finales de suite pour aller en finale. Et réellement, dans ce contexte, à part dans le championnat anglais, sinon, ils n'ont pas cette expérience. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un blocage que Paris n'aura pas? C'est pour ça que...
On verra ça. Vous savez quoi, les gars? On s'éloigne. C'est dans 5 jours. On aura le temps. Vous le connaissez de faire les débats.
Juste Patrick, pour te répondre très rapidement sur le match de Manchester City qui va arriver quand même assez vite. Tout ce qu'il faut dire, c'est que le Paris Saint-Germain a éliminé le Barça, qui est une belle équipe, et on le voit cette année, même si à cette époque-là, ils étaient un peu moins bien, mais peu importe. Contre le Bayern, ils ont éliminé une grande équipe du Bayern, à qui il manquait quand même son meilleur joueur, même si au PSG, il manquait aussi des éléments. Par contre, Manchester City, le PSG n'a pas encore rencontré d'équipe comme Manchester City, si Kevin De Bruyne est là. C'est-à-dire une équipe qui est au top de son football aujourd'hui à l'instant T, ils sont au top de leur football, ils peuvent perdre des matchs, on l'a vu contre Chelsea, mais attention, Chelsea c'est une énorme équipe aussi avec un groupe pléthorique, donc c'est
top,
quand même
top
avec un bel entraîneur et puis donc tout ce qui là, c'est le test pour le Paris Saint-Germain. Manchester City, ça va être deux matchs magnifiques, tant mieux pour le football parce que vraiment on va pouvoir... Le PSG va pouvoir s'étalonner clairement, depuis les 5 dernières années, en termes de régularité, avec le Bayern, la meilleure équipe d'Europe.
Avec le Bayern, bien sûr, j'allais le préciser. Merci Patrick.
Excellent.
Excellent. On a compris, effectivement, mais tu as pu en débattre avec Kevin et voilà.